Certaines personnes s'adonnent à un jeu de réalité virtuelle. Les émotions qu'ils procurent créent une dépendance.
Bonjour et bienvenue sur Game Radio, bienvenue dans le 65e épisode de votre podcast 100% jeux vidéo quotidien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes de bonne humeur et que vous êtes content de nous retrouver à nouveau aujourd'hui. En tout cas, nous, c'est un vrai bonheur de vous retrouver tous les jours et je ne le répéterai pas, je ne le répéterai jamais assez. Vous le savez, je suis le roi de l'intro. Non, j'ai beaucoup de mal à démarrer ces émissions tous les jours. C'est pas évident. Je crois que je vais faire ce que Jarel m'a proposé, une espèce de petit enregistrement que je placerai à chaque fois en début d'émission. Bonjour à tous. Salut Shoham.
Salut. Excuse-moi, tu m'as bien fait rire. Du coup, tu m'as coupé aussi dans mon élan.
Non, bah voilà. Donc normalement, Jarel devrait nous rejoindre et j'espère qu'il va nous rejoindre. Vu le thème qu'on va aborder, j'ai réellement besoin de lui. En effet, on va finalement, malgré mes réticences, que j'ai dit il y a quelques jours dans un podcast, nous allons parler d'Halo Reach. Voilà. Je reviendrai sur le pourquoi du comment j'étais un petit peu réticent. Mais on parlera quand même du jeu. Jarel y a joué. Il a essayé la bêta qui est donc disponible depuis le 3 mai dernier. On a quand même voulu vous en parler. On reviendra quand même sur, moi, ce que je trouve d'un petit peu négatif dans cette bêta. Donc, une sorte de mini débat. Sans doute un petit peu houleux parce que Jarel et moi, nous ne sommes pas vraiment d'accord. On s'adore. Il n'y a pas de problème. On ne s'est pas tapé dessus pour autant. Mais, voilà. On va faire le point dans la deuxième partie de cette émission, puisque nous allons commencer tout de suite avec nos news quotidiennes, notre petit tour d'horizon de l'information jeux vidéo de ces dernières 48 heures. Donc, je propose de commencer. On le tire à pile ou face, cette histoire-là.
Vas-y, lance la pièce.
Allez, je lance la pièce. Ça fait pas un son de pièce, ça.
Ça fait un son de roue, ça.
Un son de roue, c'est ça.
La roue de la fortune.
Je cherchais le terme.
Pas cool.
Bon, il y aura de la découpe encore aujourd'hui, je sens. Alors je vais commencer avec Régis Fils-Aimé, notre cher ami de chez Nintendo America, qui a eu envie, je ne sais pas pourquoi, de parler de l'iPad et de le confronter à leur DS en réponse à une journaliste spécialisée dans la finance. Dans la finance qui a indiqué que l'iPad allait prendre des parts de marché à Nintendo et à sa DS. Donc voilà, il a voulu répondre à ça. Il a déclaré que malgré les 1 million d'iPad vendus, aucune baisse des ventes de Nintendo DS n'a été constatée sur le sol américain. Et il a ajouté que les 4 premiers mois de vente de la DS en 2010 ont battu des records. Voilà, c'était vraiment histoire de remettre un petit peu Apple à sa place. Et il a aussi confirmé que la Nintendo 3DS sera bien présente à l'E3 et que les journalistes pourront même laisser et qu'elle devrait être sortie, enfin disponible en tout cas, en vente en octobre de cette année.
C'est juste complètement stupide d'avoir comparé la DS avec l'iPad. Pourquoi l'iPad irait manger dans les parts de marché de la DS alors que c'est deux machines qui sont complètement différentes en dehors du fait qu'elles fassent des jeux.
C'est pas le même public qui est visé.
C'est pas le même public. Voilà. L'iPad sert à autre chose qu'à jouer.
Les usages ne sont pas les mêmes. Et puis à la limite, faire un comparatif entre la DS et l'iPhone, pourquoi pas? Mais entre l'iPad et la DS, c'était un petit peu périlleux, je crois.
C'est comme si on commençait à dire je pense que les portables vont commencer, les portables ordinateurs portables vont prendre des parts de marché sur les ordinateurs de bureau.
D'une certaine façon, c'est vrai. Là, ta comparaison est pas très juste, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que l'iPad est tout autre chose qu'une console de jeu, même si on va
ou du PC par rapport à la console, tu vois.
Voilà, ou dire que l'iPad allait prendre des marchés par rapport au PC portable, justement.
Ouais.
Certainement un petit peu, mais bon, pas d'une façon aussi considérable que ce que semblait le dire Maria Bartiromo, je sais pas si j'ai dit son nom tout à l'heure, cette journaliste spécialisée dans la finance. Voilà, si tu veux bien, je vais enchaîner avec une autre news Nintendo.
Vas-y.
Puisque Flatout, qui n'a rien à voir avec les flatulences, d'ailleurs. À propos, j'ai toujours pensé qu'il y avait un lien, mais pas du tout. Flatout, oui, a été annoncé. Ce jeu de course, qui, je vous le rappelle, avait fait son apparition sur Xbox et puis Xbox 360, peut-être aussi sur PS2. Je crois pas qu'il y ait eu de version PS3. En tout cas, Flatout va donc arriver sur Wii. Et c'est le studio Team 6 a annoncé que le développement était en cours, que ce serait exclusif à la console de Nintendo, qu'il y aurait alors des modes classiques, arène où il faut exploser la concurrence, cascade aussi où, je vous le rappelle, il faut propulser à l'extérieur de la voiture le son personnage pour marquer des points, enfin c'est un truc assez gore, et puis trash où il faut normalement défoncer une voiture à coups de Wiimote. Donc on sait pas grand chose encore, enfin on connaît pas encore d'ailleurs la date de sortie, ni même si le jeu aura un mode multijoueur. Bon, ça peut être sympa pour ceux qui jouent sur Wii, moi j'ai pas de grosses attentes à ce niveau là je voulais juste vous signaler que le jeu allait débarquer sur la console de Nintendo, la console de salon. Je te laisse la parole, Shoam.
Alors moi je voulais parler de Assassin's Creed. Il s'avère que Ubisoft a enfin dévoilé un peu plus de détails sur Assassin's Creed 3. Puisqu'il va sortir déjà, il va sortir cette année. Donc en plus du côté multijoueur qui a été annoncé en même temps que l'annonce du jeu, il faut savoir que l'univers va se passer donc dans le même univers que celui de Assassin's Creed 2, ça aussi on le savait.
Donc mais ce qu'on savait pas, c'est que on reste en Italie à Venise dans cette même époque.
Voilà, Ezio va être à la tête d'un groupe de la confrérie des assassins, et en fait il va gérer la confrérie. Donc ça serait peut-être même plus un jeu de gestion qu'un jeu d'assassin.
D'accord, mais c'était déjà cet aspect avait été un petit peu mis en place dans Assassin's Creed 2, je crois, avec la gestion de sa villa et tous ces éléments-là.
Exactement, mais là, ça sera beaucoup plus poussé parce qu'on va carrément gérer ses assassins. Un peu à la manière du parrain, d'après ce que j'ai pu comprendre dans l'explication d'Ubisoft. Hein.
Ah, ça peut être assez intéressant. Je te propose qu'on accueille Jarel.
Oui, bah avec plaisir.
Qui, normalement, est à nouveau présent sur Skype. Je le rappelle, nous utilisons Skype pour faire ces émissions et j'espère que le son vous convient. C'est pas évident, je fais du remplissage parce que je sais pas pourquoi je ne peux pas l'appeler. Ça y est, Jarel est parmi nous. Jarel, bonjour.
Oui, salut. salut.
On t'a récupéré. Donc on a commencé avec Shoam, on était en train de parler d'Assassin's Creed 2. On peut enchaîner,
trois.
Shoam 3, pardon, oui, excuse-moi, oui, enfin 2 oui, et 3, on
deux,
parlait
deux,
du 3.
2.1, quoi. Assassin's Creed multijoueur,
multijoueur effectivement. Et d'ailleurs, comme j'expliquais,
ça va peut-être être comme le Splinter Cell Pandora Tomorrow en fait. Donc exactement le même moteur, une histoire bateau à côté, mais avec un mode de multijoueur quand même rajouté en sus.
D'après ce que j'expliquais, c'est effectivement en plus du mode multijoueur, c'est qu'il y aura en solo comme en multi. Le fait que Ezio sera à la tête d'un groupe de confrérie qui va gérer ses assassins.
Voilà. Après toi, tu parlais.
Gestion.
Je pense que ça restera assez limité. C'est un petit plus, mais je vois pas comment, si ça reste un jeu comme on le connaît, hein, entre guillemets, d'aventure, action, je pense que ça va le rester. Ça sera juste des possibilités supplémentaires que de pouvoir, comme tu le disais, gérer toute une confrérie.
On peut toujours rêver.
Oui. Je suis allé sur le Xbox Live Arcade et c'est Jarel qui m'en a parlé. Xenoclash Ultimate Edition est disponible. Donc je l'ai téléchargé. J'ai jeté un œil sur ce que c'était et je connaissais pas la version PC originelle. Bah c'est très particulier, hein. C'est très particulier. Voilà, bon, des graphismes certes en HD, donc il y a pas de défaut flagrant, mais c'est vrai que c'est des textures assez grossières, c'est malgré tout c'est fluide, c'est propre. Donc là c'est pour tout l'aspect technique. Au niveau artistique, on va dire, en tout cas au niveau du game design, c'est vraiment barré, c'est des personnages j'avais parlé de Monster Hunter 3 il y a quelque temps, j'avais comparé un petit peu les deux univers. Là on est vraiment sur quelque chose d'assez préhistorique et fantastique à la fois. Donc de ce côté,
moi j'aime beaucoup, hein. Je trouve vraiment que ça a une patte graphique très très ciblé, très marqué, avec énormément de caractères. Enfin, pour moi j'adhère, quoi. Ça te propose un univers totalement différent et unique.
Et un gameplay. Alors voilà, justement, j'ai pas dit que j'adhérais pas. Bien au contraire, j'aime beaucoup. Ce que j'ai fait pour le moment, c'est juste le tutoriel du début où on t'explique comment se déplacer, comment donner un coup de poing, un coup de pied, comment utiliser une arme. Donc ce qui est mis en avant dès le départ, d'ailleurs il y a un combat, on te fait faire un combat et c'est le corps à corps, vraiment le fait qu'on puisse bastonner et se bastonner avec des adversaires, ça c'est assez original. Ensuite il y a des armes, l'univers est quand même très particulier, vous verrez, faites-vous une idée. Le jeu vaut quand même 1200 Microsoft Points, mais il faut savoir que c'est un jeu d'envergure quand même, c'est pas le petit jeu XBLA, c'est vraiment un jeu complet avec quand même des graphismes HD qui sont de qualité. Le jeu fait quand même 1,5 giga si je me trompe pas. Donc
non,
là c'est gros.
Trompe pas, il pèse son pesant de cacahuètes, hein, ça c'est sûr. Et bon, il faut plutôt se partir dans l'idée qu'il s'agit d'un beat'em all. Vraiment, même si la vue semble être un FPS, c'est vraiment un beat'em all avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire des arènes, des boss, enfin des personnages qui arrivent qu'il faut éliminer et ainsi de suite, quoi.
Donc ça reste
chose. Donc la structure d'un beat'em all, en fait.
Ah oui, donc ça se trouve, la petite section, moi, où j'ai juste eu à me battre contre trois adversaires, tout le jeu va être construit de cette façon-là. Il n'y a pas d'aventure vraiment où on se déplace, on cherche à droite à gauche, on cherche son chemin, on évolue dans un univers libre. Pas du tout, c'est vraiment, enfin, libre.
Non, façon c'est un beat'em all.
Ah d'accord, ok. Bon, bah, pour le moment, j'ai fait que le tout début, vraiment le tout début, on va dire les 15 premières minutes. Voilà, donc Xenoclash Ultimate Edition, enfin dispo sur le XBLA. N'hésitez pas à télécharger l'aperçu, la démo, pour vous faire une idée du jeu. Si ça vous plaît, vous pourrez bien entendu en faire l'acquisition. Je rappelle qu'il y a un mode multijoueur à deux en écran splitté et en ligne. Donc ça, c'est un petit bonus qui est pas non plus désagréable et inintéressant. Tiens.
Moi, je vais rebondir sur ta news, puisque Xenoclash est un jeu indépendant, comme il faut un peu le préciser. En parlant de jeu indépendant, justement, je vais parler d'un pack qui a été fait, qui est une excellente initiative de la part des développeurs indépendants. Il s'agit d'un pack regroupant 5 jeux indépendants: World of Goo, Aquaria, Guiche, Lugami HD et Penumbra Overture. Et la particularité de ce pack, c'est qu'en fait, ce pack, tu peux l'acheter au prix que tu veux.
Ah bon?
Donc, comme avait fait World of Goo il y a quelques mois. Je sais pas si tu te souviens de ça.
Et il y a une partie qui est reversée à des œuvres caritatives, j'avais compris. Et
exactement, à deux œuvres caritatives. Donc, les frais sont partagés entre les développeurs. Une œuvre caritative qui est Child's Play et Electronic Frontier Foundation.
Ils font exactement comme Game Radio, c'est-à-dire qu'en fait, on peut faire des dons, on peut, entre guillemets, accéder à Game Radio de façon gratuite. On donne ce que l'on veut, la somme que l'on veut, et il y a une partie qui est reversée à Guillaume. Donc, c'est très bien. Enfin, à Gus. J'allais dire.
Child Play, c'était pas eux qui avaient aussi sorti Shaim sur le XLA. C'est à vérifier, mais en tout cas, Shaim avait fait exactement le même principe. Je vous invite, si vous avez le XLA et une Xbox, à regarder ce petit jeu très sympathique. C'est un jeu musical, sorte de puzzle game. Là où aussi une partie du prix du jeu, voire l'intégralité même, il me semble, est reversée à des œuvres caritatives.
Voilà, Shaim n'a d'intérêt que le fait qu'il y ait effectivement une partie des gains qui sont reversés à une œuvre caritative. Et la musique qui, je l'accorde, est de très bonne qualité, avec des morceaux exceptionnels. Le jeu, c'est une autre histoire.
J'ai fini ma news quand même pour donner le site internet où on peut trouver ce pack. C'est le www.woflin.com, woflin, woflin.com/humble, humble.
Voilà, dans la série des bons plans.
Dans la série des bons plans, effectivement. Et puis en plus de ça, on peut faire une bonne action, donc on a tout à gagner.
Tout à fait. Tiens, on parlait de petits jeux, hein, Jarel, c'est ce que tu nous disais au sujet de Shaim. Dans la série, justement, des petits jeux, il y a un nouveau pack pour la Game Room qui est enfin disponible. J'aurais aimé que tu nous parles, toi, un petit peu de la Game Room. Il y aurait beaucoup de choses à dire, j'imagine.
Oui.
J'aurais bien aimé même faire un podcast dessus, donc peut-être qu'on le fera. Moi, je sais que la Game Room, j'y suis allé, j'ai pas bien tout compris sur ce qu'il fallait que j'y fasse. Et puis, les quelques jeux que j'ai essayés, je me suis dit que je pouvais y jouer ailleurs autrement. Donc, toi, ton avis, sur peut-être les jeux que t'as essayé récemment, et plus généralement sur la Game Room.
Alors là, la Game Room, en principe, a été présentée par Microsoft comme une sorte de grosse salle d'arcade virtuelle. Bon, c'est un petit peu le cas, justement, pour l'instant, même si la plupart des jeux sont tirés de consoles, on va dire, de vieilles consoles des années 80, à savoir l'Atari 2600, l'Intellivision.
Et qui n'étaient pas des bornes d'arcade, hein, qu'on soit
non,
bien d'accord.
Non, c'est absolument pas des bornes d'arcade.
Déjà, de ce côté-là, ça me choque un petit peu.
Voilà, et en plus, les jeux proposés sont datés de ces années 80-là, donc vont clairement rebuter, on va dire, 95% des joueurs. Si on prend en plus le prix demandé pour jouer à ces jeux, c'est-à-dire pour avoir la bonne d'arcade dans sa salle d'arcade, parce que c'est une salle d'arcade virtuelle qu'on peut habiller comme on veut, c'est-à-dire 240 points pour une vieillerie qui doit faire 2 ou 4 kilo-octets, et si on veut y jouer sur toutes les plateformes, c'est-à-dire aussi sur PC, c'était 400 points, donc pas loin de 5 euros quand même. Ça fait mal, hein.
Belle arnaque, hein. Finaise.
Ah ouais, non, c'est assez énorme. Je crois que
ma grosse déception
tarifaire est quand même assez incohérente au total.
Moi qui
c'est très très cher pour des vieux trucs. Alors bon, moi je base quand même, j'ai beaucoup de... Bon, il y a la fibre nostalgique qui joue énormément chez moi. J'ai craqué sur le dernier pack pour prendre Pitfall, un jeu que sur lequel j'ai commencé presque les jeux vidéo sur mon Intellivision à l'époque. Mais c'est sûr qu'on attend vraiment pour pouvoir pleinement profiter de cette game room, des jeux d'arcade un petit peu plus vieux, on va dire, datant des années 90, voire des jeux Capcom,
CPS1,
CPS2, enfin bref.
Ouais, ouais. Bah, pour moi qui suis fan de jeux d'arcade, l'arcade pour moi c'est pas ça. Et je m'attendais, quand ils ont annoncé la Game Room, à quelque chose de... C'est convivial. Ils ont mis en place des aspects, entre guillemets, communautaires. On peut faire sa salle, faire venir les gens, gagner des points grâce à ça. Enfin, mais c'est pas... Moi, j'étais très déçu. Je m'attendais à arriver dans une grande pièce. On allait pouvoir se déplacer avec nos avatars. Ensuite, aller faire une partie, mettre en place des tournois sur une borne. Enfin, et retrouver des vrais jeux d'arcade. Je sais pas, des Crazy Taxi.
T'es pas sur la PlayStation Home. Hein.
Mais voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai.
Mais les tournois, tu peux en faire, en fait. Tu peux créer des tournois, tu peux lancer des défis à tes copains, mais bon, il faut que tes copains déjà aient exactement les mêmes jeux que toi, donc ça limite quand même,
ouais,
sérieusement.
Il faut avoir vraiment envie de jouer à ces jeux-là, quoi. Moi, je les ai, tous ces jeux. J'ai une borne, pour tout vous dire, j'ai une borne d'arcade à la maison qui est une borne homemade, donc j'ai fabriqué moi-même, avec des émulateurs à l'intérieur, donc je peux faire tourner tout ce que je veux quasiment. Et ben j'ai tous ces vieux jeux, je les ai, mais j'y joue jamais, je vois pas. À la limite, tu jettes un œil pour dire ouais, c'était comme ça et tout, mais
non, mais c'était, disons que l'intérêt est sympathique, si jamais t'as beaucoup de personnes qui participent au concept et qui se lancent des courses au point, qui se lancent vraiment dans une course au score avec des tournois, des jeux, etc. Mais vu le prix des jeux, parce que en plus, bon, enfin, à 240 points, t'aurais pu t'imaginer avoir tout le pack en entier, quoi, des 7 jeux proposés. Non, t'en as qu'un seul que tu peux jouer. Les autres joueurs, on peut visiter les salles d'arcade des autres de tes amis et jouer à une session de jeu, mais ça, il faut raquer quand même pour juste une session de jeu, donc un crédit 80 points, il me semble, ou 40. Enfin bon, bref.
Enfin bref, on va
trop cher.
De toute façon, Jarel, on va pas parler plus longuement de la Game Room parce qu'on a beaucoup d'autres choses à dire sur d'autres sujets. On fera un podcast sur ce sujet-là. Je pense, moi, juste ce qui me fait peur, c'est que c'est de la dématérialisation, que finalement, je m'attendais à ce que ce soit... Justement, cette dématérialisation nous propose des choses beaucoup plus abordables et beaucoup moins chères que ce qu'on trouve en réel dans le marché. Et je me rends compte qu'en fait, on nous prend une fois de plus pour des cons. Et je suis désolé de le dire, on le verra encore après. Microsoft est de plus en plus en train de nous pomper. Mais vraiment, vraiment.
C'est pas pour défrayer Microsoft, mais de toute façon, on est dans un marché qui pompe de plus en plus les joueurs. Ça, il y a pas de gentil et de méchant d'un côté.
Surtout qu'ils savent.
Que ce soit Sony, Microsoft ou même Nintendo, on est des vaches à lait, faut pas se leurrer, quoi.
Je trouve quand même que Microsoft sont beaucoup plus agressifs en termes de marketing. Tu vois ce que je veux dire? Je parle pas que, bon, on verra après avec Halo Reach, justement, c'est le sujet du jour, mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus agressifs que les autres à ce niveau-là.
Alors, en même temps, ils ont tout le passif PC derrière où ils nous ont aussi pareil.
Je veux dire, tarifs sur Wii.
Des politiques tarifaires de Windows et de Word, enfin de plein de choses où les licences étaient super chères et ils avaient le monopole complet.
Tu allumes.
Ouais, quand tu regardes la politique tarifaire sur WiiWare par exemple, qui est assez astronomique.
Oui, je suis. Non, mais non. Quand tu arrives, là, ce que je parle pas tellement de tarifs. Oui, si, c'est chiant les tarifs, d'accord. Mais quand tu arrives sur ta Wii, t'es pas autant agressé par de la publicité. Moi, j'ai pas l'impression d'arriver dans un grand magasin comme sur la Xbox 360.
Oui, parce que la Wii n'est pas connectée au réseau.
Bien sûr que si, que la Wii est connectée au réseau.
Ah, si, oui.
Oui, elle est connectée au réseau, 24h24, t'as même une veille.
Pareil pour Sony. Hein. Sony ne t'agresse pas de pub ou de quoi que ce soit. Les offres spéciales, en général, elles sont cachées. Tu les vois presque jamais.
Et tu peux même pas enlever ces annonces-là.
Ça, par contre, c'est justement parce que le store européen est quand même assez mal foutu sur chez Sony.
Eh ben, tant mieux.
Ça, pour trouver la moindre chose, il faut chercher. Hein.
Ouais, je dirais tant mieux.
Ça s'améliore petit à petit, mais moi je sais que sur le PSN, il y a beaucoup de packs de promotion, etc., qu'il faut que j'aille chercher sur le store.
T'as quand même acheté une console de jeu qui vaut quand même un certain prix. T'es quand même en droit de pouvoir. Moi j'aimerais bien pouvoir filtrer le contenu. J'aimerais bien pouvoir ne pas avoir tout ça dedans. n'es pas obligé de te taper en plus de la pub et tous ces produits dérivés qu'on t'incite à acheter sans arrêt. C'est quand même bah, pénible.
T'es pas obligé d'acheter aussi. Hein.
Bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que Sony au moins a eu l'intelligence de mettre de la pub dans des trucs plus intelligents comme le Home où effectivement t'as de la pub pour Audi avec des trucs spéciaux Audi, mais tu y vas pour aller découvrir des trucs sympas, quoi.
Tu y vas, toi, au Home?
Ah, moi, j'y vais de temps en temps, ouais. D'ailleurs, j'ai rencontré un interlope là-bas qui m'a accueilli, qui passe sa vie dessus.
Ah, bravo.
Non,
Ouais, j'ai essayé une fois le Home, je l'ai désinstallé automatiquement. Je vois pas l'intérêt de la chose, en fait.
En tout cas, moi, Microsoft, on va y revenir de toute manière dans la deuxième partie de l'émission consacrée à Halo Reach. Ouais. Je trouve qu'ils ont quand même une démarche marketing vachement plus agressive que les autres. Et tellement, c'est tellement gros, quoi. Ça, c'est. Enfin bon, on en parlera après. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre, Shoham? Pardon.
Moi, je voulais un peu finir deux trois trucs. Hein. Juste pour dire que Dragon Age Origins Darkspawn, qui va être un add-on supplémentaire pour Dragon Age. Pour une fois, on va pouvoir jouer les méchants. Ton personnage va être méchant. Il va pouvoir invoquer des créatures démoniaques et se débarrasser d'une ville carrément.
Moi qui ai toujours voulu attaquer la veuve et l'orphelin.
Mais alors Dragon Age, c'est un jeu que tu attends, toi, Sajarel, hein. Tu y as joué déjà?
Dragon Age, il est sorti depuis pas mal de temps.
Hein. Oui, tu y as joué, mais ça, tu nous en parlais récemment. Enfin, là, c'est une extension dont tu nous parles. Hein,
c'est une extension qui va sortir bientôt.
Ça fait partie de c'est un jeu qui est sorti et où après tu as énormément d'extensions qui sont proposées à des prix là aussi défiant toute concurrence quelquefois pour des contenus un petit peu rikiki, on va dire.
Dragon Age en fait partie effectivement, mais là je crois que l'extension est vraiment sympa, il y a vraiment des trucs en plus et puis
oui,
bon,
faut faire un choix quand même. Enfin, dans les extensions c'est vrai qu'il y a de tout.
Il faut attendre en général les tests, ce qu'en pensent les joueurs avant d'acheter, quoi. Pas se jeter sur le premier truc sachant que c'est pas cher, quoi.
Mais en tout cas c'est un jeu de rôle très sympathique.
Bon, très sympa. Je vais peut-être finir, et juste pour en finir, Ubisoft a annoncé l'arrivée de Tom Clancy's Hawks 2.
Oui, c'est vrai, voilà. Tiens. Donc, le jeu d'avion, de pilotage
sur PC, PS3 et Xbox 360.
Voilà, qui avait pas trop mal marché, c'était sorti l'année dernière, non, il y a deux ans maintenant, je crois, sur Xbox 360. Je sais pas s'il était sorti sur PS3, certainement.
Oui, je crois qu'il est sorti.
Qui a eu son succès à l'époque. Ouais, très bien, très bon jeu, donc, moi je suis bien content qu'il y ait une suite. Tiens, en passant comme ça, il se pourrait que Pac-Man fasse son retour sur nos consoles prochainement, le saviez-vous?
J'y ai pensé en plus dernièrement, j'ai dit bah tiens, c'est bizarre, Pac-Man on le voit plus.
Ça a dû t'arriver quand t'étais au musée du jeu vidéo.
Oui, exactement.
Ah voilà. Donc Pac-Man devrait faire son apparition à l'E3. Voilà, il y a une annonce et c'est plutôt la PS3 qui est mise en cause dans cette annonce. Pac-Man pourrait revenir sur la scène vidéoludique dans le courant de l'année, on sait pas grand-chose de plus. Bon, voilà, c'était une petite news en passant.
Il était déjà peu venu sur la DS avec Pac-Pix, qui était un excellent jeu en passant.
Et sur le XLA avec Pac-Man Reload, on va appeler ça comme ça, mais avec un très bon ersatz, un très bon remake de Pac-Man basé sur le score en fait.
Et sur GameCube avec Pac-Man Versus, pour ceux qui y ont joué. On joue avec une manette de GameCube et une, deux ou trois Game Boy Advance, et c'est assez énorme. Voilà pour les news du jour. Je pense, on a fait un point suffisant, je crois, aujourd'hui.
On va
passer à la suite de cette émission. On va reparler d'Halo Reach. J'avais fait part aux auditeurs de mes réticences à en parler. On n'a pas fait de Game Radio Online pour la simple et bonne raison que moi j'ai pas le ODST, donc j'ai pas eu accès à la bêta du jeu. J'aurais pu me débrouiller certainement pour l'avoir, avoir un code ou contacter Microsoft. Je m'en suis pas occupé, donc voilà. Je me suis retrouvé le bec dans l'eau. Par contre, Jarel, toi tu y as pu y jouer, donc oui. On a eu envie quand même de faire le point sur le jeu. Je rappelle que Halo Reach, je sais plus. Oui, on va parler d'Halo Reach, qui est donc accessible. On s'y perd un petit peu, hein. Qui est donc accessible. Le mec qu'on rajoute pas.
Tiens donc.
On s'y perd.
Ça va être quand il va falloir parler des futurs Final Fantasy XIII versus et.
Ça m'étonne. Enfin bon, Halo Reach accessible en achetant Halo 3 au DST ou pour les quelques chanceux qui ont gagné des concours ou qui ont eu des codes d'accès. Halo Reach sort le 31 octobre de cette année, donc c'est dans quelques mois. En ce qui concerne la bêta elle-même, je rappellerai qu'elle est actuellement limitée à 8 joueurs, si je je crois que c'est ça, hein,
Oui, 8 joueurs.
Ouais, actuellement, on a accès à 2 cartes.
Sur les quelques parties que j'ai fait, j'en ai vu 2, effectivement.
Voilà, et avec plusieurs modes de jeu en équipe ou solitaire.
Ouais, le Capture the Flag, le Team Slayer, il y a de quoi faire, quand même.
Alors, c'est une démo auquel on peut accéder depuis le 3 mai dernier, donc depuis lundi soir, 19h30 à peu près. Gros succès, il y a eu énormément de gens qui se sont connectés. J'avais des chiffres, je les cherche. Je crois que c'était 600 000 personnes connectées le soir même.
Vu que c'est la licence phare de Microsoft, effectivement, ça, Halo, c'est fait figure un petit peu de saint jeu, de Graal encore pour beaucoup de joueurs de la Xbox, malgré un petit peu son image qui a commencé à se ternir petit à petit.
Et alors,
ça reste une valeur sûre.
Je remets pas la main sur mes chiffres. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Donc,
écoute, si je les vois passer, je te
sautes dessus, tu les attrapes.
Ils étaient comment ? Ils étaient habillés ?
Donc, que dire ? La bêta est donc dispo, gros succès apparemment. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Moi, je suis allé voir un petit peu les retours des joueurs, voir un petit peu ce qu'ils en pensaient. J'aurais voulu aller sur le Xbox Live, j'ai pas eu le temps de le faire pour interroger directement des gens. Dans l'ensemble, les gens sont contents, je crois. D'autres, bien entendu, il y a toujours des bougons, le sont beaucoup moins.
Toujours, mais les deux peuvent se comprendre, en fait. Les gens contents et les gens pas contents. Dans le sens où, on va dire que tous ceux qui sont passés un jour sur une Xbox connaissent Halo, connaissent son multi. C'est un multi nerveux, plutôt typé arcade, loin des modes Modern Warfare et compagnie.
Justement, tu parles de Modern Warfare. Apparemment, un des reproches, moi j'ai relevé beaucoup de reproches en fait, hein, je ne sais pas pourquoi. C'est étrange. Un des reproches qui a été fait au jeu, c'est de se rapprocher justement de plus en plus d'un Call of Duty, d'un Modern Warfare dans le gameplay.
Oui, peut-être. J'essaie de voir pourquoi, mais non. en fait, peut-être que le seul petit élément qui viendrait rapprocher ça de Modern Warfare, outre le fait qu'on peut choisir maintenant différentes classes de personnages au début de chaque map, qu'on gagne au fur et à mesure qu'on joue, on gagne des crédits où on peut s'acheter de l'équipement supplémentaire.
Voilà, c'est surtout par rapport aux armes, la jouabilité aussi qui est beaucoup plus nerveuse, d'après ce que j'ai compris, et donc. On choisit son équipement.
C'est pas normal. En fait, ils ont rajouté des sortes d'éléments. Quand tu choisis ta classe, la classe est associée à une sorte de, on va dire, de coup spécial.
Voilà. Donc tu peux sprinter, voler, être invincible. Invisible. Donc en fait, t'as ça. Puis t'as des armes aussi, je crois, qui sont adaptées en fonction de ta classe. Et ce qui n'était pas du tout le cas dans les épisodes précédents.
Plus ou moins, mais c'est vrai que suivant le type, entre le bouclier de furtivité, le champ de furtivité que tu peux avoir, le sprint, voire le jetpack, tu joues vraiment de façon radicalement différente à chaque fois, et chaque élément a vraiment ses avantages et ses inconvénients.
Donc ça,
c'est vraiment bien pensé. Ouais. Et il y a un petit temps quand même d'adaptation au début, même si si les joueurs de Halo retrouvent rapidement leur marque, le petit temps d'adaptation quand même est nécessaire pour pouvoir, on va dire, se familiariser avec les nouvelles configurations de touches, parce que c'est pas les mêmes.
En tout cas, Jarel, ces équipements et ces cet aspect un peu stratégique dans le gameplay, le fait de pouvoir utiliser comme ça le sprint, voler, et effectivement tu parlais d'un mode Capture the Flag, et c'est vachement intéressant pour sprinter ou atteindre une arme à un tel endroit ou récupérer le drapeau. C'est un vrai plus, parce qu'en fait on quitte un petit peu l'aspect Quake-like qu'avait encore Halo jusqu'à présent. On arrivait, on avait son arme de départ et puis on ramassait les armes sur la carte. Là on s'en écarte un peu plus pour arriver sur quelque chose de plus, entre guillemets, stratégique.
C'est stratégique tout en gardant son côté arcade et nerveux, en fait. Vraiment un gameplay assez nerveux, et c'est assez sympathique finalement dans l'ensemble, même si de prime abord on voit qu'il n'y a pas grand chose vraiment qui a changé.
Dans les changements, le gameplay, je crois, a beaucoup changé. C'est en tout cas ce que j'ai relevé en allant sur des forums de discussion divers et variés. Si je fais un bilan, les gens sont pas déçus, mais c'est autre chose. Apparemment, on saute beaucoup moins haut, les déplacements sont plus grossiers, moins précis, les fameux Spartans sont plus lourds. En tout cas, c'est ce qu'il en ressort, même si le jeu est en quelque sorte un petit peu plus nerveux. Est-ce que le gameplay, toi, t'as trouvé qu'il était vraiment différent des opus précédents ?
Il est différent, mais on reste dans du Halo. Donc, comme je t'ai dit, on retrouve très rapidement ses marques. On n'est pas totalement dépaysé, mais il y a un temps d'adaptation à faire. Donc, disons qu'on redécouvre finalement le Halo et on prend toujours autant de plaisir. Donc, finalement, que demander de plus ? Halo, c'est vraiment un multi soigné, qui a su faire ses preuves, et il garde justement ses éléments de multi qui ont fait l'unanimité un petit peu partout, hein, et pour les encore les améliorer. Donc ça promet de très très bonnes choses.
Alors niveau graphisme.
Moi j'ai une question. Ouais. J'ai une petite question. Moi je suis un peu une bille à l'eau, c'est pour ça que je parle pas trop. Mais moi j'avais une question par rapport à ça. Pourquoi c'était un hors-série par rapport aux autres épisodes d'avant?
Tu dirigeras plus Master Chief en fait. Donc c'est autant tu avais à Halo DST où tu dirigeais pas Master Chief, mais ça reprenait un petit peu les événements de, on va dire du 2 et enfin certains événements qui sont passés dans l'épisode 2. Autant là, tu te mets directement à la tête d'une brigade. Enfin, Laurie, je vais te mettre directement à la tête d'une brigade de.
Ça se rapproche beaucoup plus d'un Call of Duty, qu'on le veuille ou non. C'est dans cet esprit-là, Call of Duty, pareil. Tu n'incarnes pas forcément un personnage en particulier, ce qui faisait d'ailleurs un peu la force de Halo. Hein, on était quand même très attachés à notre Master Chief, et là, donc, on se dirige beaucoup plus vers un jeu.
Je pense qu'ils arrivent à du Call of Duty, parce que Call of Duty, en fait, le
non,
le
sans aller jusque-là, mais
ouais. Non, mais dans le solo, c'est une sorte de raid impressionnant, une sorte de grand 8 de 5-6 heures de jeu où tu lâches pas ta manette, où c'est toujours de plus en plus fort, et ça durant 6 heures, si t'as ça dans Halo, ça te tue totalement le jeu. Et en plus dans Halo, ce qui est très peu fait encore dans les FPS actuels, c'est d'avoir un mode coop jusqu'à 4 qui comme dans le 3, qui apporte vraiment son plus et qui
Tu parles de Halo DST, hein.
Non, mais je parle de Halo Reach aussi.
Ah oui. Il va le proposer. Pour le moment, c'est absent de la bêta. Graphiquement, techniquement.
Non, la bêta, c'est que le multi.
Voilà.
Fait,
alors, graphiquement, techniquement, petite déception de la part des joueurs, apparemment. Ils s'attendaient à beaucoup mieux.
Ça tue pas la tête, mais c'est quand même nettement plus joli qu'Halo DST et Halo 3. Tant mieux. Ça ne tue pas la rétine, mais c'est très agréable à l'œil.
Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que qu'on retrouvait ces marques, hein, que c'était du Halo. Effectivement, moi j'ai relevé une phrase amusante, je la relève simplement parce qu'elle est amusante, d'un gamer qui a joué à la bêta et qui dit effectivement, on retrouve toute la joie du multi d'Halo, tirer sur un mec pendant 10 plombes sans le tuer, se faire piquer son frag et même se faire tuer entre temps, que du bonheur que je laisse aux autres sans regret.
Sincèrement, d'un certain côté, je préfère ça un petit peu au du Modern Warfare où, vu que là, moi je suis aussi une bille, passer 3 secondes sur une map, le temps de voir à peu près dans quelle pièce on a respawné pour se faire à nouveau tuer, et ainsi de suite pendant la partie.
Enfin.
Je préfère au moins qu'on mette 4 plombs pour me tuer, histoire que je puisse appliquer au moins de 2-3 balles avant de mourir.
Alors, autre sentiment que j'ai eu, donc, en faisant le tour un petit peu comme ça, des forums et divers retours qu'on a pu avoir sur des sites, entre guillemets, journalistiques, apparemment, on est plus en présence d'un Halo 3.5 que d'un vrai Halo 4.
En ce qui concerne le multi et des modes de jeu proposés dans la bêta, oui.
Ok, oui, voilà, par rapport à la bêta, bien entendu.
Ouais, par rapport à la bêta. C'est une sorte d'un petit peu de version vraiment... les graphismes ont été quand même nettement améliorés, hein. Il n'y a pas photo, ils ont vraiment fait du boulot là-dessus. C'est plus les trucs un petit peu monstrueux que tu voyais dans Halo DST, voire Halo 3 qui commence à dater un petit peu. Là, c'est vraiment joli, quoi.
En tout cas, apparemment aussi, ce qui est très attendu dans ce Halo Reach, c'est surtout le mode solo en coop, enfin le mode histoire, l'aventure en coopération ou en solo, c'est surtout ça qui est attendu. C'est vrai que le mode multijoueur, somme toute, toujours très sympathique dans les Halo. Au bout d'un moment, c'est pas ce qui fait forcément la différence dans cette licence-là. Moi, je voudrais qu'on revienne donc sur un des aspects dont j'ai parlé dans un podcast précédent et qui m'agace un peu. Qu'on n'est pas d'accord avec Jarel, mais ce matin on en a pas mal discuté, c'est pour ça qu'on voulait en parler à nouveau dans ce podcast. Et effectivement, tu as raison Jarel, je te l'accorde, moi quelque part je ne peux pas m'empêcher quand même d'être un petit peu choqué, c'est pas tellement choqué, mais attristé par ce que Microsoft est en train de faire et ce qu'il avait finalement déjà fait il y a quelques temps avec Halo 3, nous pondre une bêta comme ça et à côté de ça proposer une campagne publicitaire qui incite, qu'on le veuille ou non, à acheter Halo 3 ODST. Donc tu m'expliquais que c'était le contrat, que quelque part quand t'achètes Halo ODST, tu sais que tu as accès à la bêta. Je veux bien, moi j'ai plus, donc je vais le réexpliquer, je n'ai plus Halo 3 ODST et je me suis demandé qu'est-ce que je fais, est-ce que je me rachète le jeu juste pour jouer à cette bêta ou pas. Donc je ne l'ai pas fait. J'attendrai que le jeu soit sorti ou que la bêta entre guillemets devienne une démo et soit accessible à tout un chacun. D'ailleurs, il faut savoir que la bêta s'arrête le 19 mai.
Bah, c'est une bêta, hein, donc en principe c'est fait pour voir les bugs et pouvoir les améliorer au fur et à mesure.
Alors bah justement, on va essayer de définir un petit peu. Moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse la différence entre bêta et démo et se poser aussi cette question. Est-ce que selon vous, Halo Reach a vraiment besoin d'être essayé en ligne et de proposer une bêta? C'est pas un MMORPG, c'est pas non plus un jeu qui, au niveau du multijoueur, est d'une si grande envergure. Je pense qu'en interne, Bungie a des équipes suffisamment grosses et ils peuvent très bien mettre en place un bêta test interne sans passer par... Il y a beaucoup de Call of Duty, enfin, propose aussi une bêta, mais qui devient souvent plus une démo qu'autre chose. Donc, ils ont même pas eu besoin de le faire, d'ailleurs, pour le dernier Modern Warfare. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important, cette bêta, ou pas? Est-ce qu'elle est...
Oui, vu que c'est un nouveau moteur, sûrement. Sûrement, là, après, du point de vue technique, je saurais pas trop répondre, vu que j'y connais rien. Enfin, quand tu gardes à peu près le même moteur, quand tu gardes à peu près le... Enfin, on va dire, quand tu t'appuies sur les mêmes bases comme a été Modern Warfare 1 et Modern Warfare 2, hein, d'un certain côté, ça n'a pas été extraordinaire. Enfin, là, il n'y a pas eu d'amélioration vraiment particulière.
Ouais, donc on est d'accord, le but d'une bêta, c'est de toute façon de voir s'il y a des bugs, de voir si ça fonctionne bien, si ça tourne bien en ligne, quels sont...
Si jamais, enfin, tu ne peux pas faire de toute façon en interne, tu ne peux pas faire de simulation à grande échelle.
Tout à fait.
Donc, puis voir des simulations où tu as énormément de joueurs.
Ça te permet aussi de voir quel est l'intérêt porté par les joueurs sur ton jeu et de voir si les joueurs ont comment ils ont réagi, ce qu'ils ont aimé ou pas aimé. Ça permet aussi de voir tout ça. Toi, Schwab,
la bêta est une campagne et fait partie de la campagne publicitaire à part entière. Hein.
Bah justement, toi, Schwab, qui est habitué aux bêta, tu as participé à beaucoup de bêta, tu joues sur PC et sur PC, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fréquent, beaucoup plus que sur console. C'est assez nouveau, c'est assez récent. Ce système des bêta sur console, on était plus habitué aux démos.
Exactement. Ton avis là-dessus. En général, d'ailleurs, là en l'occurrence, la bêta était vendue dans un jeu. Chose que ce qui ne fait pas du tout sur PC. Sur PC, voilà, on annonce une bêta, on s'inscrit avec un formulaire et au bout de voilà, avant que la bêta commence, tu reçois un mail en disant voilà, une clé pour pouvoir entrer dans la bêta et puis tester le jeu. C'est-à-dire tester le jeu, c'est vraiment tester le jeu. C'est-à-dire de pouvoir donc de jouer normalement et puis essayer de trouver les limites du jeu. Et dès qu'il y a des limites qui sont dépassées, des bugs, genre on tombe ou enfin des trucs qui devraient pas arriver, on le remonte au développeur et ils essaient de modifier le jeu avant qu'il sorte. Parce que des bugs qu'on trouve après qu'un jeu soit sorti, ça fait toujours de l'argent, il faut faire des patchs, enfin c'est très compliqué.
Oui, ça la fout mal.
Et en plus de ça, ça la fout mal. Donc vendre un jeu qui est buggé, ça fait pas.
Donc dans le cas de Halo, on est totalement sur autre chose puisque je pense pas que la plupart des joueurs qui vont essayer Halo 3 ODST, à part mettre dans les forums c'est de la merde ou c'est chouette et il y a ça qui a buggé, c'était voilà, je pense pas qu'ils vont envoyer un petit courrier à Bungie pour leur faire part de leur découverte.
En fait, dans l'histoire justement des bêtas vendues avec l'achat d'un jeu, on peut rappeler quand même celle de Halo 3 avec Crackdown.
Voilà, justement, je voulais y venir. Oui.
Il y a eu aussi des promotions aux États-Unis en précommandant Infamous, tu avais une clé de bêta d'Uncharted 2. Donc les bêtas, en fait, quel que soit l'éditeur, quel que soit le constructeur derrière, font vraiment partie
du
merchandising à grande échelle.
Ouais, il faut faire une différence quand même entre le cadeau et là, quand tu parles d'Uncharted 2, c'était plus un cadeau qui était fait. Là, c'est vraiment très différent. Je rappelle quand même qu'il y a une campagne de pub qui t'explique clairement Halo Reach, participer, acheter Halo ODST. Tu parlais de Crackdown. Ouais, tu parlais de Crackdown, c'est très intéressant. Hein. Effectivement, la bêta d'Halo 3 a fait vendre des copies de Crackdown. Il faut bien s'en rappeler. Des gens se sont achetés le jeu rien que pour ça.
Le jeu était très bon hein, aussi.
Ouais, non mais bien sûr. Bah ok, d'accord, on achète aussi un jeu, bien entendu. Quelque chose qui a été dit par Stéphane McGill, qui est donc responsable chez Microsoft du département Gaming and Entertainment, au sujet justement de Halo ODST et d'Halo Reach, et qui revient justement sur Crackdown et Halo 3, qui a dit texto, nous avons vu le succès de ce mécanisme de la bêta multijoueur d'Halo 3 qui est venu s'ajouter sur le disque du jeu Crackdown et de la dynamique commerciale ainsi que l'excitation générée autour de ce titre tout au long de son cycle de vie et nous attendons à ce que Halo 3 ODST dépasse ce résultat. Donc ils avaient bien envisagé que grâce à Halo 3 ODST, ils allaient qu'ils allaient vendre beaucoup d'Halo 3 ODST grâce à ce rajout de l'accès à la bêta d'Halo Reach.
Donc de toute façon, c'est des choses qui vont se faire de plus en plus, puisque en fait, il faut savoir que Electronic Arts a annoncé aurait pour projet de façon de faire payer ses démos. Alors qu'est-ce que ça veut dire payer ses démos ? Faire payer ses démos, c'est-à-dire de donner une partie du jeu, de faire payer pardon une partie du jeu qui est donc une partie du jeu complet à moindre coût, et pour que tu aies la suite, il faut que tu payes le jeu complet, ce qu'avait fait un petit peu Fable avec ses formats épisodiques. Donc c'est un peu maintenant de plus en plus un projet marketing de donner un avant-goût du jeu en le faisant payer, et pour après donner envie de payer complètement le jeu.
Et là on a presque l'impression qu'en achetant Allo DST on achète déjà Allo Reach, ce qui n'est pas le cas, mais c'est bête ce que je dis, mais c'est vraiment ça. On a une vraie campagne autour de ça, et ça me paraît vraiment, moi ça me choque beaucoup. Je sais, ouais, que Jarel, tu comprends pas bien mon point de vue. Alors moi c'est vrai que
je comprends toujours pas, hein.
Non, mais j'ai peut-être une forme de frustration parce que je ne peux pas jouer à cette putain de bêta, peut-être que c'est ça, mais finalement non, c'est que je me dis que vous vouliez ou non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller acheter Allo DST rien que pour ça, qui n'avaient pas forcément le jeu, qui vont essayer d'avoir un code, et s'ils l'ont pas, ils vont se racheter un jeu 40€.
Oui, mais ils vont s'acheter Allo DST qui est un add-on de Allo, qui est très sympa, de Allo 3, qui est très sympathique à jouer.
Oui, mais alors ce que je t'expliquais ce matin, c'est que moi, par exemple, j'ai toujours dans ma bibliothèque Allo 3, que j'aime beaucoup. Allo 3, à l'époque, j'ai acheté tous les packs de cartes ou téléchargé quand il devenait gratuit. Donc j'avais tout ça. Quand tu achètes Allo 3 au DST, donc quelques mois après, tu as à nouveau Allo 3, le premier inclus dans Halo 3 ODST, plus toutes ces fameuses cartes que tu as achetées aussi, et en plus, dans ce Halo 3 ODST, on donne accès à la bêta du prochain jeu Halo. Bah, en fait, je veux dire, c'est une espèce de cercle vicieux de, ça va de l'autre, du fanboyisme, c'est vraiment du, tu t'abonnes presque à ce jeu, quoi, d'une certaine façon. Et à chaque fois, tu rachètes un peu le même contenu.
Bah, non, parce que Halo ODST, c'est quand même une campagne de 10-12 heures, quand même, assez sympathique, qui
mais oui, mais voilà, justement, tu sais très bien comment ça marche.
Tu as un mode après dans le feu. Merde. Ouais,
toi t'es un petit peu à part. C'est vrai que toi tu gardes tes jeux. Moi par exemple, quand j'ai terminé un jeu, quand je sais qu'en multijoueur il ne m'intéresse pas, d'autant plus parce que j'ai encore Halo 3 et je vais pas les revendre ou me débarrasser d'Halo 3 parce que ça ne vaut plus rien justement. Halo 3 ODST est sorti. Bah qu'est-ce que je fais? Halo ODST, je l'ai terminé, j'ai fini le solo, je vais pas garder un jeu. Alors j'aurais pu me dire à l'époque, attends, garde-le, dans 6 mois, 7 mois, 8 mois, tu vas pouvoir jeter un œil à la bêta test de Halo Reach. J'aurais pu me dire ça, mais non, je vais pas garder un jeu pour une bêta test. Surtout ouais, quand mais, il a une ouais, valeur qu'il va perdre ensuite.
Il avait clairement dit des.
C'est un choix personnel, oui, bien sûr, bien sûr.
Ils l'ont pas rajouté au fur et à mesure. Ça aurait été plutôt vicieux, finalement, d'annoncer ça deux semaines avant la sortie de la bêta. Là d'accord. Là, je t'aurais suivi, mais là,
j'ai retrouvé mes chiffres qui concernent justement le succès de cette bêta. Apparemment, dès le jour du lancement, il y a eu plus d'un million de personnes qui se sont connectées à la bêta. Donc, 1 million de personnes. Il faut savoir que apparemment, les derniers chiffres de vente d'Halo ODST qu'on avait au mois d'avril, début avril, c'était 113 000 exemplaires vendus depuis le mois de septembre, puisqu'il est sorti en septembre dernier, Halo 3 ODST. Donc en gros, on est passé de 113 000 exemplaires à 1 million.
Non, ça c'est pas possible, ça.
Eh ben écoute, c'est les chiffres annoncés, je les invente pas.
C'est où que tu les as eu, ces chiffres? Ils s'étaient pas vendus que 113 000 à Halo 3 ODST.
Alors, je te lis exactement le truc, donc ça date du 1er avril 2010. 113 000 copies d'Halo 3 ODST ont trouvé preneur dans l'Hexagone. Si on en croit le dernier communiqué en date de Microsoft, le chiffre fourni par JFK apparaît donc comme honorable pour une exclusivité.
Oui, non, mais les 1 million, c'est après de connexion sur la bêta, c'est au niveau mondial.
Ah oui, j'ai parlé d'Hexagone, excuse-moi, oui, tu as raison, en France, 113 000, oui, pardon, d'accord, oui, effectivement.
Donc, 113 000 en France.
1 million, bon.
Mais Halo ODST, ça marche énormément dans les pays anglo-saxons, enfin, Halo,
ouais, c'est vrai, Angleterre, États-Unis.
Énormément aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons.
Ouais, donc toutes mes excuses, je me suis trompé. Enfin, à mon avis, quand même, il y a eu des ventes de fête malgré tout. Donc en fait, voilà, moi, c'est vrai que j'ai une petite frustration de pas pouvoir y avoir joué. J'aurais peut-être dû garder mon jeu. En même temps, c'est ce que je te disais ce matin, j'ai pas vu tellement de gens sur cette apparemment ça a bien marché. Effectivement, lundi soir, il y avait dans ma liste d'amis quelques personnes qui étaient sur Halo Reach, et depuis pas tant que ça.
Mais je crois que le phénomène, enfin le de en France, de toute façon la Xbox est pas si répandue que ça, hein. On est plutôt quand même sur la PS3 et ça, disons que la démo marche, enfin la bêta bêta marche énormément dans, je t'ai dit, dans les pays anglo-saxons ou aux États-Unis. En tout cas, pour se connecter, on trouve très rapidement du monde. Tout marche, c'est vrai, tout est huilé, quoi. C'est vraiment nickel. On trouve très rapidement du monde. On se connecte très rapidement à des parties. Si jamais l'hôte de la partie se déconnecte, il est aussitôt remplacé. C'est vraiment.
En gros. En tout cas, moi, là où je voulais en venir dans mon coup de gueule que j'avais porté la dernière fois et je vais le répéter, c'est que si par exemple vous avez acheté Halo ODST à la sortie que vous ne l'avez plus, si aujourd'hui vous voulez jouer à la bêta d'Halo Reach, vous devez acheter Halo ODST. Ça, c'est certain, vous n'avez pas le choix. Si vous n'avez jamais joué à Halo ODST, ben, bande de petits vénards, en achetant Halo ODST aujourd'hui, vous allez pouvoir jouer à ce magnifique jeu qui est Halo ODST.
Enfin, faut pas exagérer.
Et accéder à la bêta d'Halo Reach.
Sympathique.
Et si par bonheur vous avez conservé depuis 8 mois votre jeu Halo 3 ODST, eh bien vous allez pouvoir accéder à la bêta. Sinon, vous avez peut-être encore des solutions pour trouver des codes sur internet ou vous contacter directement Microsoft, je sais pas, trouver des solutions. Moi, j'en ai pas trouvé là dans ces derniers jours. Je voulais aussi signaler un truc et on va aller le vérifier si vous voulez. On va carrément téléphoner à des magasins de jeux. Tiens, on va faire ça, ça peut être assez amusant. Il faut savoir que Microsoft a annoncé que du 1er avril au 15 mai, Halo 3 ODST allait connaître une baisse de prix. Donc il allait passer de 49€ ou 46€, je sais plus, à 30€ seulement. Donc actuellement, en magasin, neuf, il devrait être à 30€.
Par contre, Gus, je vais pas pouvoir rester avec toi pour les appels.
D'accord,
je vais quitter là-dessus.
Et puis, ça marche. Ouais. Ciao,
bon
Choam. Voilà, on va donc.
Grosse bise, Choam. Te perds pas en route.
Non, t'inquiète pas.
Donc, nous allons appeler des boutiques de jeux vidéo. J'ai pas encore. J'ai une petite liste là, on va voir. Donc, je le répète, normalement, Halo 3 ODST doit être vendu aux alentours de 30€, et ce jusqu'au 15 mai pour pouvoir permettre aux gens justement d'essayer la bêta multijoueur en ligne sur l'Xbox Live de Halo Reach. On va appeler un Micromania.
Si tu veux, moi je n'ai pas d'affinité avec ces gens-là.
D'accord, donc tu me laisses faire.
Même si j'ai un copain qui est chef de magasin.
Donc laisse-moi faire, je pose mes questions. Tu n'es pas là.
Je ne suis pas là.
Je vais me faire passer pour un client bêta.
Halo bêta.
Ça sonne.
Micromania de Lac, Marc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voudrais avoir un renseignement. Je voudrais savoir si vous avez encore des jeux Halo 3 ODST.
Alors, je vais vous dire ça. Alors oui, il nous en reste en neuf à 40€.
40€ en neuf, d'accord. Voilà. Vous en avez aussi d'occasion, j'imagine ?
Occasion, non, j'en ai plus.
D'accord. J'avais juste une question, parce que je sais qu'on peut accéder à la bêta d'Halo Reach avec Halo 3 ODST.
Oui.
Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de monde, en fait, qui sont venus vous prendre des Halo 3 ODST, justement, dans l'optique de pouvoir jouer à Halo Reach ?
Il y en a eu pas mal, ouais. À la sortie, quand même, et puis, de temps en temps, ouais, on nous en demande. Pas des masses non plus, quoi, mais quand même pas mal, ouais.
Ok, puis alors, j'ai une petite surprise, en fait, c'est pour ça que je vous appelais, parce que je pensais que le jeu allait être à peine à 30€. Je crois que Microsoft avait annoncé qu'ils allaient faire une baisse de prix sur le jeu.
Alors, bah, peut-être, mais pour l'instant, nous, on n'a pas été informés, en magasin, en tout cas. C'est possible, hein, puisque, comme il est sorti il y a pas mal de temps, il y a des chances qu'il le passe en classique, quoi.
Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, à bientôt.
De rien.
Au revoir.
Au revoir.
Donc. Apparemment, donc déjà, le jeu n'est pas à 30€.
Effectivement, ouais, c'est une news du jeudi 1er avril, comme tu dis, Halo 3 ODST moins cher, mais cette promotion,
ils sont peut-être dit qu'ils
semble pas être répercutée.
Ouais, ils sont peut-être dit qu'ils avaient peut-être. On va appeler une autre boutique, donc. Peut-être que c'est chez Micromania. On va aller voir ailleurs. Je vais appeler là. Allons sur le terrain pour une fois. Donc là, c'est un Diff Intel micro. Je crois que je connais le gérant du magasin.
Si on peut.
Oui, bonjour. Ricardo ?
Oui, c'est moi.
Bonjour, c'est Guillaume à l'appareil. Comment vas-tu ?
Bah, écoute, très bien.
Très bien. Donc, tu es en train de participer à une émission de radio. Tu ne le sais pas, je te l'annonce. Je suis en plein enregistrement. On t'appelle parce qu'on fait en fait une émission autour d'Halo Reach, sa sortie, et notamment le fait que pour accéder à la bêta test du jeu, eh ben, il faut avoir acheté Halo 3 ODST.
C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont passés me demander, vous avez du Halo ODST d'occasion ?
Voilà. Donc, effectivement.
Alors qu'ils en avaient rien à faire une semaine avant.
Voilà, c'est un peu là que je voulais en venir. Je voulais te demander, est-ce que toi, justement, t'avais encore des Halo ODST d'occasion, des neufs ? Est-ce que ça s'est vendu ? Tu me dis, là, les gens sont venus te demander si tu en avais ? Est-ce que toi,
oui, d'occasion, ouais, il y en a pas mal qui sont venus. Il y a des grands méga nerds de Halo qui effectivement le voulaient absolument jouer à la bêta, donc ils étaient prêts à cramer 30-40€ pour y jouer à la bêta.
Voilà. Alors moi, justement, Microsoft avait annoncé une baisse de prix normalement qui aurait dû avoir lieu là du 1er au 15 mai, 1er avril,
oui.
Au 15 mai. Elle a eu lieu ou pas cette baisse de prix ?
Le jeu était passé à 40€, si je me souviens bien.
30€.
40. Après, peut-être qu'il y avait eu d'autres baisses que je n'ai pas, que je n'ai peut-être pas suivi parce que c'est vrai que je me concentre surtout sur les nouveautés là, en ce moment.
Je me dis, non, mais t'étais pas le seul, il y a personne qui a fait cette baisse de prix là pour l'instant. Mais en tout cas, ça avait été annoncé ou du moins ça a été relayé par Gamekult.
Ben, en fait, c'est-à-dire que les 7, certes, cette baisse de prix avait été annoncée, mais bon, au final, ils nous en avaient pas, comment dire, le jeu ne nous avait pas été vraiment proposé par le grossiste. Voilà. J'aurais eu un petit mail à un moment, voilà. Donc là, ouais, voilà, je vois le prix. Effectivement, quand il était encore disponible, il était à 37 euros.
D'accord. Alors, rapidement, Ricardo, ton opinion, toi, sur la campagne marketing qui est faite autour d'Halo Reach en ce moment, où on te dit, voilà, vous voulez participer à la bêta d'Halo Reach, eh bien, vous achetez Halo ODST. Qu'est-ce que t'en penses?
Tout simplement, Microsoft a un de ses fameux coups fumants. Ils essayent de gagner encore plus d'argent que... Enfin, ça me paraît tout à fait logique de leur part. Et les gens qui veulent jouer à Halo Reach, bah, ils achèteront à Halo ODST, quoi.
Est-ce que tu connais des gens...
Il n'y a pas grand-chose à en penser, hein, Guillaume. Enfin, et c'est des gens qui sont là pour faire du pognon, et ils le font bien. Enfin...
Ouais, et donc, quand on dit que voilà, les gamers, par contre, on peut très bien penser qu'il y a des gens qui, comme moi, ont acheté ou ont eu Halo ODST il y a 8 mois et qui vont aujourd'hui recraquer, tu penses, 40 euros pour pouvoir jouer à Halo Reach parce qu'ils l'ont revendu entre-temps.
Oui, tout à fait. J'en ai vu plusieurs qui étaient prêts à le faire. Après, d'autres disaient non, quand même, je préfère m'acheter une vraie nouveauté et un jeu que j'ai pas fait, parce qu'il y en a quand même que j'arrive à raisonner. Mais sinon, c'est sûr qu'il y en a, ils sont prêts à craquer. Ouais. Même jusqu'à 40 euros, effectivement, pour la bêta, quoi.
D'accord, ok. Bon, bah écoute, Ricardo, très bien, je te laisse travailler. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bon courage, à bientôt. Au revoir.
Allez, ciao.
Bah, écoute, voilà. Comme quoi, hein, tant qu'il y aura des pigeons, hein, il y aura des offres comme ça.
Tout à fait. Donc, on va peut-être pas continuer notre tour des boutiques. On a eu donc Micromania et Diffintel Micro au téléphone.
Par contre, ça serait intéressant justement d'avoir des joueurs pour voir. Enfin, si jamais il y en a un qui a revendu à l'ODST et qui se l'est racheté exprès pour faire la bêta.
Non, mais je peux témoigner moi-même puisque j'ai été confronté à ça. J'ai eu à l'ODST.
Oui, mais t'as pas craqué, toi.
Ah bah non, j'ai pas craqué. J'ai failli. Mais alors voilà justement ce que j'expliquais. Halo Reach en soi, une bêta, une démo, je suis pas un féru de ça. Je préfère découvrir le jeu quand il est sorti et j'aime pas tellement les démos. En général, les démos, je jette un œil dessus, j'y reviens pas. Je vais pas effectivement dépenser 40 euros pour un truc que je vais utiliser 10 secondes, juste histoire de voir ce que ça va donner quand ça va sortir. Ça, c'est évident.
Surtout que ça, c'est pas une démo, hein. C'est vraiment la bêta. La démo viendra effectivement bien après, quoi.
La seule chose qui aurait pu me faire craquer, c'est que je me suis dit mince, j'aurais bien aimé faire un Game Radio Online sur la bêta d'Halo Reach, et je me suis dit bon, quand même 40 euros le Game Radio Online, je suis prêt à beaucoup de sacrifices pour Game Radio, mais de là à dépenser 40 euros, non, voilà. Donc
tu te serais pas dit ah tiens, j'aimerais bien faire un Halo ODST avec Jarel. Oh.
Non, ça va, un ou un Halo 3 si tu veux, je l'ai encore, hein. On peut encore se refaire la coop d'Halo 3 qui est somme toute très sympathique aussi.
Et je l'ai pas fini en légendaire encore.
Mais moi non plus. Donc bah tiens, écoute, si tu veux, on se le fait en légendaire. Non, puis j'ai tellement d'autres jeux en ce moment, je vais pas me remettre à Halo 3 ODST. Tellement de choses à faire. Voilà,
bon,
donc.
En tout cas, c'est vrai, mais il y aurait presque une émission entière à faire sur justement ces nouvelles politiques de vente qui sont pas seulement l'œuvre de Microsoft, hein, on le rappelle. Ça se fait un petit peu partout. La mise en vente, il y a comme Choam nous en avait parlé bientôt de. Enfin, Activision est en train de préparer soit un abonnement pour le mode online des prochains Modern Warfare, soit les démos payantes. Les démos payantes, on a déjà eu ça avec Gran Turismo. Donc bon, on va voir où s'oriente le marché, mais c'est sûr que de toute façon, on est traité comme des vaches à lait et le jeu vidéo est un loisir cher.
C'est un loisir, je le répète, je pense, on est quand même tous très addicts à notre loisir et je pense que l'industrie en joue et utilise des moyens qui, moi, me paraissent un petit peu... Il y aurait peut-être, je sais pas comment on pourrait faire pour changer les choses. Ricardo, d'ailleurs, qu'on a entendu de Diffintel Micro, c'est un magasin que j'allais beaucoup avant et pour des raisons d'éloignement, je n'y vais plus, mais c'est quelqu'un qui est très très... qui vend du jeu vidéo et qui tient donc une boutique qui est somme toute indépendante malgré le fait que ce soit un Diffintel Micro. Et vous l'avez entendu qu'il y a une approche très très paternaliste ou fraternelle, enfin en tout cas il s'occupe bien de ses petits de ses clients, et on a souvent eu des discussions justement sur le jeu vidéo, sur la façon dont les gens consommaient. On a souvent parlé de drogue, on a assimilé souvent ensemble le jeu vidéo à une drogue, et c'est vrai que lui est confronté, de par les tarifs qu'il fait, les prix de revente qu'il fait à ce marché, dans ce marché de l'occasion, à des gens qui viennent régulièrement, qui touchent un RMI et qui viennent revendre des jeux, des misères pour racheter la dernière nouveauté, qui se ruinent et qui gaspillent leur énergie, leur temps et leur argent là-dedans. Et lui, quelque part, ben, vit du jeu vidéo et ça lui a toujours posé un gros problème de finalement de rentrer dans le jeu de cette consommation-là. Et c'est vrai que je comprends quand il nous dit oui, j'ai eu des clients qui sont prêts à remettre 40 euros pour jouer à une bêta, ça doit l'écœurer. Mais bon, il a pas le choix, faut bien qu'il vende ses jeux, il faut bien qu'il vive.
Donc, ah voilà. Oui, non, mais ça c'est vrai. Hein. Pourquoi? Enfin, c'est vrai que quand tu regardes payer finalement un jeu 70 euros dès sa sortie, voire essayer de traîner dans les magasins pour l'avoir un jour plus tôt, quand tu regardes avec le recul, c'est totalement dérisoire, un petit peu idiot, quoi. Mais
ouais. Alors pour les gens
on est moi j'ai mon côté matérialiste, hein, c'est pour ça que je garde tous mes jeux, etc. Mais c'est vrai que faire
c'est comme tu disais, tout le monde n'a pas
faire une soirée d'avant-première là où tu restes 3 heures dehors pour essayer d'avoir ton exemplaire de jeu ou alors ta console avant tout le monde, ça j'ai jamais fait, ça m'étonne.
Non, mais faut surtout se dire que les plus gros consommateurs de jeux vidéo, c'est pas encore aujourd'hui les jeunes adultes qui travaillent, qui ont forcément une situation, c'est surtout aussi des adolescents ou des un peu plus âgés qui vont être étudiants, qui ont pas de moyens mais qui sont quand même très accros à leur passion du jeu vidéo, et tout, c'est tout à fait légitime, hein, ça moi je le conçois, et je voilà, mais qui n'ont pas les moyens et qui forcément favorisent ce marché de l'occasion et se retrouvent parfois dans la merde à cause des jeux vidéo. Et ça, c'est quand même, il faut le dire, c'est un truc qui se dit pas, c'est vrai, c'est le cas.
Mais tu crées un buzz, tu crées une demande, tu crées une envie, et voilà quoi. C'est, après tu suis, vu que tu participes à des réseaux sociaux aussi.
Voilà, ça joue beaucoup. C'est vrai que ça joue beaucoup.
Game Radio en est un. Tu participes à des réseaux sociaux dans les forums, et si tu fais partie des 1, 2, 3 personnes du forum à pas avoir le jeu du moment alors que tous les autres l'ont. T'as les réseaux sociaux aussi qui sont maintenant disponibles.
Mais tu as raison, mais c'est horrible. Jarel, je me suis acheté Super Street Fighter 4. Ah oh, zut, justement, parce que tout le monde nous m'a dit que c'était génial, donc j'ai craqué. Non, mais c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que quelque part, il y a aussi ça, le fait, par exemple, Halo Reach, tu te dis, ouais, si je joue pas à la démo avec tous mes potes qui vont y avoir accès, il y a une espèce de phénomène de groupe évident et...
Surtout sur les jeux multi d'un certain côté, parce que les jeux multi les personnes y jouent quand à leur sortie,
et puis 3 mois plus tard il y a plus personne,
t'as plusieurs mois de retard, et ben tous tes copains ont déjà torché le multi ou sont passés à autre chose,
et quand tu l'achètes
après, et ben tu te retrouves tout seul à jouer soit avec des américains, soit
ça,
avec des japonais,
ou alors avec des gens qui jouent depuis plusieurs mois et qui sont autrement plus forts que toi, ce qui fait que ça t'écœure du jeu et que tu laisses tomber.
C'est ceux qui s'étaient passé avec moi pour Modern Warfare 2, où je l'ai eu pas trop longtemps finalement après tout le monde. Mais
alors Halo Reach, on va de la bêta d'Halo Reach, en tout cas on va, moi j'aurais vous parler d'une petite news, petit rayon de soleil dans sa grande bonté. Pendant 4 jours, sachez que les multijoueurs des jeux Halo, tout jeu Halo confondu, seront gratuits. Attention, ils seront gratuits pour les comptes Gold,
Silver.
Alors que Silver. Voilà, je recherchais
parce que Gold c'est gratuit quand même.
Voilà.
Gratuit,
donc en fait pendant 4 jours, pendant 4 jours, toutes les personnes qui n'ont qu'un compte Silver pourront jouer donc à Halo 3, à Halo 3 ODST sans avoir besoin de passer Gold, et donc ils pourront jouer à Halo Reach pour peu qu'ils aient acheté Halo ODST, bien entendu.
Oui, pour peu qu'ils ont gardé Halo ODST.
Voilà, pour
donc,
peu que.
Donc c'est une bonne nouvelle. Merci à la grande bonté d'âme de Microsoft.
Voilà, donc ce sera le 14 et le 17 mai prochain. Non, ce sera du 14 au 17 mai prochain. Donc ça durera 3 jours en fait.
En espérant que ça marche mieux que la réduction de prix de 30 euros sur Halo ODST.
En tout cas, ce que j'aime dans l'annonce qui a été passée, c'est que ils disent entre le 14 et le 17 mai prochain, tout le monde aura le droit à sa partie de Reach gratos. Bon, façon de parler.
Tous les possesseurs de Halo ODST auront droit à leur partie de Reach gratos.
Qu'il faut dire. Bon, voilà.
Si je te rappelle, c'est une bêta. Bon. Est-ce que je peux rajouter avant qu'on se quitte un petit message, là j'avais parlé il y a peut-être un mois de cela, de la disponibilité à venir de la BO de Flower sur le PSN. Sachez que après quelques semaines d'attente, elle vient enfin d'arriver sur le PSN européen au prix de 1,99€. Donc si vous avez aimé Flower, qui est un excellent jeu sur le PSN, que vous avez une PS3, écoutez, faites-vous ce petit plaisir, payez les 1,99€,
ouais,
et
on peut même
prenez
dire
cette BO qui est superbe, voilà, pleine de sérénité et de zénitude.
On peut même dire que si vous n'avez pas aimé Flower, c'est pas bien grave, la BO vaut le coup, donc allez la télécharger si vous aimez la bonne musique.
Voilà, de la musique très très calme, très très zen.
Bon, allez, la... très bien, on en a fini pour aujourd'hui.
La BO est de Vincent Diamanté.
On termine avec Flower, donc on termine en beauté cette émission. Merci Jarel d'avoir été là. Coucou, à demain. Chers amis auditeurs de Game Radio, à demain aussi. Si tout se passe bien, on sera avec une personne qui fait, je sais pas exactement comment on dit, il nous expliquera, enfin, il fait des mods de consoles. C'est-à-dire qu'il les modifie, notamment des PlayStation 3, des PSP. Il nous expliquera normalement s'il est bien là demain, tout ça dans cette émission. Je fais un petit
monsieur,
coup.
Monsieur X.
Non, j'ai oublié son nom, Flash quelque chose. En tout cas, il sera avec nous demain. Je fais un petit coucou à Holder et je le remercie pour sa contribution, dans le paiement du serveur de Game Radio. Voilà, il y a un bouton de don, je vous le rappelle, donc n'hésitez pas. C'est vrai que ça nous aide. En tout cas, moi, ça m'aide à continuer cette aventure et à vous faire profiter du mieux possible de Game Radio. À demain, à bientôt, ciao, bonne soirée, bon jeu à l'écoute de Game Radio.
Au revoir.
Game Radio.